Première règle du bon usage de l'histoire simple et brutale, savoir que le passé est là.
Cuba, si, la Havane et l'hospitalité révolutionnaire.
Vous pensez que les Américains vont organiser le blocus ?
Avec Eisenhower et Nixon, on peut craindre le pire.
Que ferez-vous alors ?
Il vaut mieux mourir par le feu que par la faim.
Tous les peuples du tiers-monde seront avec vous.
La patrie ou la mort, le sacrifice s'il le faut. À Cuba en 1960, Jean-Paul Sartre, qui a été un des premiers visiteurs de l'île, on le voit évoqué ici dans un film de Claude Goretta, s'émerveille que de si jeunes compañeros tiennent pareils propos. En 1966, il y a 50 ans, l'enthousiasme redouble quand 82 délégations se retrouvent à La Havane, issues d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. La répression anticommuniste vient alors de se déployer en Indonésie avec une terrible ampleur et la guerre du Vietnam gagne en importance. Il s'agit d'opposer aux entreprises mondiales de l'impérialisme une stratégie globale de la révolution. C'est le grand rendez-vous de la tricontinentale. Il n'a pas été facile de faire le tri entre les délégations. L'URSS et la Chine veillaient chacune de leur côté sur leur protégé. Mais Fidel Castro est fier d'avoir pu inscrire le nom de Cuba dans le grand jeu international. À l'époque, il en est venu à penser que son île est une nation d'exception dont les choix pèseront sur l'avenir du monde. Jusqu'ici, c'était le Caire ou Alger qui symbolisait le tiers-mondisme militant. Maintenant, c'est la Havane. Ce moment de communion sera assez bref. Il mérite d'être évoqué au moment où, par un étrange retournement historique, les commentateurs s'esbaudissent du retour des États-Unis à Cuba tout en assurant que l'île ne serait plus qu'un confetti sur la carte.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Bertrand Rosenthal, bonjour.
Bonjour.
C'est toujours la vie qui gagne. Vous avez publié aux éditions Helvétius de courts récits qui vous permettent enfin de sortir des codes de l'information. Un récit truculent, ironique, hein.
Oui, c'est bien. De revoir aussi l'histoire quand on y a participé, quand on y était, puis de revoir ça avec un peu de recul.
Parce que vous avez été grand reporter, journaliste à l'AFP, directeur d'agence de l'AFP un peu partout dans le monde, mais c'est toujours le passé qui gagne. Vous appartenez à une espèce en voie de disparition, le cubanologue, et on fait toujours appel, quand il y a un événement important autour de Cuba, au kremlinologue, non, au cubanologue, mais c'est l'équivalent.
Oui, si on veut, mais je pense qu'il y en a d'autres. Je ne suis pas le seul, et Cuba est comme pays révolutionnaire ou qui peut faire rêver ou pas rêver, a aujourd'hui plus d'intérêt que la kremlinologie parce que on voit plus très bien en quoi l'Union soviétique, la Russie aujourd'hui reste un vecteur de lutte internationale. Ça reste un vecteur sur la scène internationale, mais pas sur la lutte internationale. Et Cuba l'est encore, même si certains pensent que c'est un confetti
et qu'il est passé du mauvais côté de la force, du mauvais côté de l'histoire. Vous êtes arrivé à Cuba, un livre avec Jean-François Fogiel, fin de siècle à La Havane, quand tout commençait à s'éteindre. Mais si vous le voulez bien, on va revenir à la période où tout s'allume. Enfin, je parle d'un point de vue révolutionnaire, là, qui n'est pas nécessairement le nôtre, Bertrand Rosenthal. 1959, donc, avec une poignée d'hommes fidèles, prend La Havane. Dans cette poignée d'hommes, il y a le frère, celui qui reçoit aujourd'hui Obama.
Il y a bien sûr Raúl Castro, et qui dirigeait toute une partie de la guérilla, le deuxième front, et qui a toujours été là, et qui a toujours su gérer, où son frère, on pourrait dire, gère moins bien, mais a beaucoup plus de charisme, et on connaît Fidel, on connaît beaucoup moins Raoul.
Il avait beaucoup de poigne dès cette époque.
Oui, c'était surtout un grand organisateur, Raoul, et lui avait un passé vraiment communiste, ce qui n'est pas le cas de Fidel. Raoul a adhéré à ce qui s'appelait le Parti communiste, très bonheur. C'était pas le cas de Fidel. Raoul était un marxiste, ce que n'était pas Fidel.
L'hospitalité révolutionnaire, on attend de l'avoir menée quand on vient à Cuba dans les années 1960, évidemment, par Fidel. Salut les Cubains, vous vous souvenez peut-être, c'est le titre d'un film d'Agnès Varda. Ça commençait à Saint-Germain-des-Prés, qui était une des grandes bases de départ pour Cuba, d'où s'est envolé Jean-Paul Sartre dès 1960. Mais il était le dernier d'une lignée, où il était un parmi beaucoup d'autres.
À l'occasion du 10e anniversaire de sa création, l'Institut cubain de l'art et de l'industrie cinématographique a organisé une exposition d'affiches. De célèbres réalisateurs nous ont rendu visite durant ces 10 ans. Joris Ivens,
Peter Brook,
Roman Carmen,
Antonio César,
Agnès Varda, Jean-Luc Godard, Francesco Rossi,
Chris Marker,
Gérard Philippe.
Bonjour, monsieur Sartre.
Enchanté.
Madame Beauvoir, je suis Juan Arcocha, votre interprète pendant tout votre séjour.
Très bien.
Carlos Franchi, directeur de Révolution, le plus gros journal cubain.
Bien sûr.
Señor Sartre, que pensez-vous de notre Révolution?
Eh bien, je suis venu pour le savoir et le faire savoir dans un grand reportage pour François.
¿Apoya usted nuestra revolución?
¿Soutenez-vous notre révolution?
Et comment? Elle n'a que 14 mois, elle éclate de jeunesse.
Vous êtes pour ou contre la peinture abstraite?
Je ne crois pas que le moment soit bien choisi pour parler de peinture.
Que pensez-vous de l'existentialisme?
L'existentialisme, c'est le moyen que j'ai d'assurer mon existence.
C'est la restitution avec un brin d'ironie par Claude Goretta, le grand cinéaste suisse, de ce voyage de 1960 qui s'est déroulé pendant un mois dans une atmosphère évidemment chaleureuse. Sartre et Beauvoir s'émerveillaient de la jeunesse de leurs interlocuteurs et ils étaient reçus régulièrement par Fidel Castro. Parce que Fidel Castro, c'est l'éducateur qui éduque les intellectuels et celui qui montre au peuple, qui n'est pas très ordonné dans ses aspirations, le dessin, l'horizon.
Oui, c'est le visionnaire, mais c'est aussi l'organisateur. Et puis, il a sa personnalité, le fait qu'il reçoive personnellement, mais un nombre de gens incroyables, je veux dire. Fidel laisse ses responsabilités d'homme d'État pour recevoir personnellement, et y compris écouter. Fidel n'est pas uniquement quelqu'un qui fait de longs discours, Fidel est quelqu'un qui sait écouter, qui enregistre, et qui après éventuellement va agir. C'est une de ses caractéristiques, il l'a fait très longtemps. Et puis cette époque-là, 60, 66 encore, c'est encore l'époque où c'est une révolution qui fait rêver, parce que ils sont jeunes, ils ne sont pas officiellement alignés ni sur l'Union soviétique, ni sur la Chine, donc ils représentent une autre révolution, moins bureaucratique, moins étatique, durant ces premières années, et ça fait rêver.
Sauf qu'en 1961, débarquement de la baie des Cochons, le débarquement est organisé depuis les États-Unis et Cuba veut se défendre donc contre les États-Unis et va faire de plus en plus appel à l'Union soviétique, ce qui va apparaître clairement au moment de la crise des missiles de 1962. Et il va y avoir un rôle catalyseur de ces événements internationaux dans le tournant de plus en plus communiste du régime.
Absolument, mais on peut dire que c'est imposé à ce moment-là par les États-Unis à Fidel. Les relations avec l'Union soviétique ont déjà commencé, puisqu'il faut bien remplacer le partenaire américain qui ne veut plus du Cuba et d'un Cuba communiste. Donc là, il y a deux possibilités, la Chine ou l'Union soviétique. Ce sera l'Union soviétique parce qu'économiquement, elle a bien plus de moyens que la Chine à cette époque pour aider Cuba. Mais petit à petit, la soviétisation de la révolution castriste va prendre de nombreuses années, parce que jusqu'en 1968, jusqu'à l'intervention soviétique à Prague et du pacte de Varsovie, Fidel n'a pas encore soviétisé. Fidel a toujours des débats et des oppositions avec l'Union soviétique, c'est après Prague, et pour des raisons essentiellement économiques, fondamentalement, que Cuba va totalement soviétiser.
1966, la tricontinentale se réunit, c'est une organisation de solidarité des mouvements révolutionnaires du continent africain et du continent asiatique, un peu dans le prolongement de la conférence de Bandung, le tiers-mondisme militant, à quoi s'agrègent de plus en plus de mouvements d'Amérique latine. Alors, vous dites, Cuba est entre la Chine et l'URSS. Chacun de ces pays va peser sur le tri des délégations qui doivent être invitées à Cuba.
Oui, mais c'était extrêmement compliqué parce que cette fois-ci, à la tricontinentale, justement, Cuba a fait inviter essentiellement des mouvements révolutionnaires, beaucoup moins que des partis communistes, alors que c'était une réunion de l'internationale des communistes, et les États ne sont pas représentés à haut niveau. En fin de compte, c'est le congrès des guérilleros, le congrès de 66, et ça se déroule en où la guerre du Vietnam est l'élément fondamental, et c'est ce qui dominera d'ailleurs la conférence de la tricontinentale, c'est la solidarité au Vietnam. Ça se passe une année après l'intervention américaine avec des Marines en République dominicaine, donc une intervention militaire, et au moment où se développe toute une série de guérillas, en particulier en Amérique latine, il y a un autre côté, c'est là où on retrouve aussi la plupart des futurs dirigeants des guerres d'indépendance des colonies portugaises en Afrique.
Dites-moi, c'est facile pour les délégués d'arriver à Cuba ?
C'était très compliqué pour certains, plus facile pour d'autres. Il y en a qui ont fait beaucoup de détours. Ils sont très nombreux. Ils sont plus de 800 délégués et très extrêmement différents. Et on retrouve effectivement des mouvements maoïstes et des mouvements pro-soviétique.
L'hôtel Hilton, enfin il faut plus dire Hilton.
La Habana Libre.
Et c'est là que Fidel Castro prononce son discours d'ouverture.
La proposition de este año...
Je propose à notre peuple que cette année, en conséquence de l'événement qui a eu lieu dans notre pays, et en l'honneur des délégations qui nous ont fait l'immense honneur de nous rendre visite, et de se réunir sur cette terre où la liberté s'est conquise avec le sang de ses fils et qui s'est défendu en combattant pour pouvoir s'appeler Cuba. Premier pays socialiste et premier territoire libre d'Amérique. Je propose que nous appelions cette année l'année de la solidarité. Que le peuple appuie cette décision et que tous ceux qui sont d'accord avec ce nom lèvent la main.
Viva el año de la solidaridad.
Vive la solidarité et la fraternité entre tous les peuples. Vive la lutte de la libération des peuples, patrie ou mort.
Patrie ou mort. Il paraît qu'on distinguait les bons patriotes, ceux qui étaient de patrie et de mort, et les patriotes blablabla, enfin ceux qui parlaient la langue de bois.
Ah, mais ça fait partie des guerres entre Chinois et Soviétiques, ceux qui parlent pour ne rien dire, qui parlent beaucoup et qui ne font rien. C'était le grand reproche des Chinois aux Soviétiques en 1966, et Fidel aussi d'ailleurs a reproché aux Soviétiques de ne pas assez aider le Vietnam.
Ce discours de Fidel, nous l'avons trouvé dans l'émission La Marche du Monde de Valérie Nivelon sur Radio France Internationale. C'est Ben Bella, le président algérien, qui avait songé à cette réunion, et Ben Barka, le grand leader marocain, qui l'avait largement préparé.
Oui, alors Ben Bella n'y participera pas pour cause de coup d'État.
Il est bouclé en Algérie pour longtemps.
Voilà, et Ben Barka, lui, devait présider la tricontinentale, et quelques mois avant, à l'automne 1965, donc il est enlevé à Paris et sans doute assassiné lors d'un voyage où il devait rencontrer le général de Gaulle.
Le général de Gaulle, on ne va pas discuter des responsabilités qu'il a assumées dans l'affaire Ben Barka, mais il s'intéressait à la tricontinentale
De là à dire qu'il avait envoyé comme œil de Paris Joséphine Becker, c'est un peu excessif.
Non, c'est un peu excessif, mais De Gaulle s'y intéressait parce que, quand même, l'ennemi désigné de la tricontinentale, il n'y en a qu'un, c'est l'impérialisme, évidemment. Impérialisme, dans le langage de la tricontinentale, veut dire les États-Unis. C'est le grand condamné de l'intercontinentale, il faut disparaître, et tout le monde veut s'organiser contre les États-Unis.
Alors on pourrait écouter Joséphine Becker, qui était très contente d'être allée couper la canne après avoir donné un spectacle. Il paraît qu'elle chantait aussi en hébreu à Cuba, ce qui est un peu étrange, mais quand même, ce qu'on attend à Cuba actuellement, grand concert, entrée gratuite le 25, Ciudad Deportiva, ce sont
les Rolling Stones.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Cuba 2016, visite d'Obama, concert gratuit des Stones, qui ne vont produire que des morceaux d'anthologie. Ils font juste un détour, hein, parce qu'ils sont en tournée en Amérique latine. 1966, grand rendez-vous révolutionnaire. La tricontinentale, les organisations des pays en lutte, des peuples en lutte d'Asie, d'Amérique latine et d'Afrique. C'est pas mal d'avoir passé les Stones, ce Bertrand Rosenthal, parce que s'il reste des divinités debout des années 60, ce sont les Stones et Che Guevara. Où est-ce qu'il était Che Guevara au moment de la tricontinentale?
Che Guevara est en train de préparer son voyage en Bolivie.
Son voyage?
À ce moment-là. Oui, son voyage, parce que le voyage a été très compliqué pour arriver en Bolivie, donc il préparait son voyage en Bolivie, il se refaisait une tête, il s'entraînait sans doute dans la Sierra, il préparait son matériel, il se préparait à partir tout simplement en Bolivie.
En guérilla, de même qu'il avait, quitté discrètement Cuba en 1965, de même qu'il avait participé à une guérilla au Congo.
Exact, qui s'est très très mal passé.
Enfin, il a fait la connaissance de Kabila.
Il a fait la connaissance de Kabila père.
Grand camarade révolutionnaire.
Kabila père, mais ça s'est très mal passé puisqu'il a fallu l'exfiltrer, tellement la situation était devenue dangereuse. Et donc, ça a été fait avec l'aide de la Tanzanie et de l'organisation africaine. Il a fallu le sortir de là parce qu'il allait être fait prisonnier.
La guérilla commence à éclater en feu. La théorie des feux va peu à peu être développée, notamment par Régis Debray, un peu partout en Amérique latine.
Oui, ça se développe, mais ça se développe face à l'arrivée de dictatures militaires qui se démultiplient aussi en Amérique latine au même moment. Parce que les États-Unis ont particulièrement compris le danger que représentait la tricontinentale dans le développement des guérillas et de l'influence communiste. Et ils ont réagi très vite, et donc là, il y a une vraie guerre qui se déroule entre des régimes militaires qui s'installent, des régimes civils qui disparaissent comme au Brésil alors qu'il y avait un régime progressiste ou qui est victime d'un coup d'état militaire. Et parallèlement à ça, Cuba développe une aide à la guérilla. À partir de 1966, La Havane est devenue le centre révolutionnaire de l'ensemble de l'Amérique latine, avec des moyens, des entraînements, des livraisons militaires, etc.
On peut faire l'inventaire de ces guérillas. Alors, il y a des guérillas urbaines. Carlos Marighella au Brésil. Alors, ça ne dit plus grand-chose, le nom de Marighella. Quand même, au plus vieux, on peut rappeler que 40 éditeurs français, peut-être, se sont réunis pour publier ensemble, afin d'échapper aux poursuites, un manuel de guérillas urbaines. Aux gens un peu moins anciens, on peut dire que
Bernard Lavilliers s'est beaucoup inspiré, paraît-il, de Carlos Marighella. Ça, c'est la guérilla urbaine. Et puis, il y avait les guérillas, les focos, dans la jungle ou dans les provinces.
Tout va se développer au cours des années qui suivent. C'est pas exactement en 66. C'est tout un développement. Donc, en 66, déjà, on a le leader des FARC colombiens, donc, qui est à la Havane, à la réunion de la Havane. Il y a, évidemment, l'affaire vénézuélienne, avec Douglas Bravo, qui est à la Havane. Donc, tout va venir, Guatemala, Salvador, Nicaragua.
Guatemala, le camarade Turcios Lima.
En guise de solidarité avec le peuple frère du Guatemala, nous reproduisons ici des fragments du discours prononcé par le commandant des forces armées des rebelles guatémaltèques, Luis Augusto Turcios du Front Guerriero, Edgar Ibarra.
Compagnons de route d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, je veux exprimer des remerciements de la part de l'organisation que je préside pour l'accueil solidaire que le peuple cubain a réservé aux représentants des peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Nous pensons que cette conférence d'importance historique est un coup mortel pour l'impérialisme. Pour cette même raison, elle doit être le fondement de l'institutionnalisation de la solidarité tricontinentale en mettant en place un organisme qui canalise, coordonne et applique de manière efficiente tous les moyens de solidarité anti-impérialiste. Ceci afin que les efforts matériels, moraux et la lutte de nos peuples pour la cause qui nous unit ne se dispersent ni ne se perdent.
Viva la solidaridad de los pueblos de África, Asia y América Latina. Por el imperialismo, el colonialismo y el neocolonialismo.
Turcios Lima qui sera assassiné peu après son retour dans son pays.
Comme beaucoup de participants à la tricontinentale, de ces mouvements de guérilla dans le monde entier, seront assassinés. Un exemple, c'est celui évidemment d'Amilcar Cabral, qui sera assassiné en 73.
Alors lui, c'est un leader de la décolonisation face aux colonies portugaises, mais lui, au moins, aura eu le bonheur, bref, de voir l'indépendance de son pays s'établir, même s'il disparaît très 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 tôt. On a quand même l'impression que l'effet a été particulièrement fort dans les jeunesses occidentales.
Bah, c'est l'idée.
Souvenez-vous, Bertrand Rosenthal.
L'idée d'une révolution mondiale, l'anti-impérialisme. Encore une fois, le contexte, c'est la guerre du Vietnam. Un mouvement qui se développe contre les États-Unis. C'est quand même l'environnement de cette époque-là. C'est l'élément fondamental. Mais évidemment, il y a un souffle qui passe en Amérique latine qu'on n'avait pas connu avant. Et ça,
les
c'est
comités
nouveau.
Cuba, qui est un peu partout en Occident, vont devenir des comités Vietnam.
Oui, en partie. C'est les mêmes. Hein. On retrouve les mêmes militants et la même cause.
Et toute une littérature se développait. Je parlais du livre de Carlos Marighella, mais beaucoup d'autres qu'on trouvait chez Maspero à Paris. La joie de lire, au quartier latin.
Il y a Maspero lui-même et bien sûr Régis Debray qui représente la suite aussi de la tricontinentale. Je parle du Che peut-être en 67, juste avant d'être fait prisonnier. Son dernier message connu est destiné à la tricontinentale et où il appelle à 1, 2, 3 Vietnam.
Alors lui aussi meurt assassiné en 1967.
En octobre 67, oui.
Considéré aussitôt comme un Christ.
Oui, comme un martyr. Je crois que la notion Christ vient plus tard.
Oui, parce que autour des reliques du Che, beaucoup de légendes vont se développer. Il ne parle pas beaucoup du Che quand même à la tricontinentale, Fidel Castro.
Non, il n'en parle pas, mais aussi le Che, avant de partir en Bolivie, c'était silence radio sur tout ce que faisait le Che. Et même depuis beaucoup, beaucoup de temps, parce que l'expérience qu'il y a eu en Afrique, l'aventure africaine, on n'en a pas parlé avant 1987.
Et le journal de Bolivie, néanmoins, sera, après sa mort, publié par Fidel Castro assez vite, peut-être pour éviter d'être publié par le pouvoir bolivien. Mais revenons au 12e et dernier jour de la tricontinentale 1966, le discours de clôture.
Ha hecho el máximo, ter,
agradable la estancia de las delegaciones aquí.
Le peuple cubain a fait le maximum pour rendre agréable le séjour des délégations avec tout l'enthousiasme, toute l'hospitalité, toute la chaleur dont sont capables les Cubains.
Miles de cubanos.
Des milliers de Cubains, sans attendre de repos ou de vacances en retour, ont travaillé pour le succès de cette conférence. Ils ont travaillé pour répondre aux représentations des peuples frères. Notre peuple entier a vécu durant ces jours la grande fête de la solidarité internationale. Notre peuple a fait sien chacun des problèmes des autres peuples. Comme je vous l'ai dit le 2 janvier, notre peuple vous reçoit les bras ouverts et vous quitte les bras fermés en symbole d'un lien qui ne se rompra plus.
Comme symbole d'un lazo qui ne se romperá más et comme symbole.
C'est aussi un symbole de ses sentiments fraternels et solidaires envers les autres peuples qui luttent, pour lesquels il est disposé à verser son sang, la patrie ou la mort.
Fidel encore jeune, 40, 41 ans à l'époque, on sait pas bien quand il est né, 25, 26 ?
Il est né en 25 réellement et officiellement en 26.
Donc voilà. À 90 ou 91 réellement, aujourd'hui, quand il voit son frère Raoul faire les honneurs de la Havane au président Obama, dont il espère, le frère, qu'il va aider à maintenir ce régime chancelant, il est songeur, le vieux leader Maximo.
Oui, sans doute, mais je pense qu'il doit jubiler fortement tout de même, après 56 ans d'une politique américaine destinée à faire tomber les frères Castro, Obama vient à Cuba. Je veux dire, c'est pas Fidel qui est parti à genoux aux États-Unis comme le souhaitaient les Américains pendant de nombreuses années. Le geste d'Obama est quand même un geste de victoire pour Fidel, sans aucun doute de le voir venir et de voir que les choses vont sans doute s'améliorer et que on va lever toutes les contraintes, en particulier l'embargo. On est parti pour ça. Ce n'est pas sûr puisqu'il faut que le Congrès le vote. Ce n'est pas sûr parce qu'il y a des élections présidentielles américaines et que tout peut encore se retourner. Quant à Raoul, ils ont tous annoncé, les vieux, qu'ils quittaient le pouvoir en 2018. Donc, en 2018, on peut s'attendre à une autre génération et peut-être à un Cuba qui va prendre un tout autre chemin.
Et ceux qui jubilent moins, ce sont peut-être les opposants. D'aucuns ont encore été arrêtés hier.
Oui, mais de l'autre côté, ils jubilent d'abord parce qu'Obama va les recevoir et que dans toute cette négociation de l'amélioration des relations, aussi pour des raisons économiques pour Cuba, faut pas rêver, comme quand ils sont soviétisés, aujourd'hui, ils ont besoin de cet assouplissement avec les États-Unis pour continuer de vivre. Et donc je crois que dans ce mouvement, les choses vont aussi s'améliorer pour la dissidence et l'opposition. C'est pas encore le cas.
Bertrand Rosenthal, fin de siècle à La Havane, c'est votre livre sur Cuba et pour qui veut retrouver votre patte, c'est toujours la vie qui gagne chez Helvétius, de courts récits inspirés de votre vie passée de journaliste. L'émission a été préparée par Clara Garzon avec à la réalisation Jacques Sigal et à la technique Julien Chabassu. Je n'ai pas bien compris, Mathieu Vidard, le sujet de votre émission. Il s'agit de stars, un peu comme les Stones.
Oui, c'est ça, la star de la paléontologie, le dinosaure, le tyrannosaure, voilà, le T-Rex plus exactement.
Ah oui, c'est le dinosaure qu'on connaît le mieux parce qu'on le retrouve dans les séries télé ou dans l'industrie culturelle.
Par exemple, exactement.
Très bien, à tout à l'heure.
Merci,
donc pour
Jean.
La tête au carré.